Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et voici le retour de votre rendez-vous d'information sur cette antenne. C'est le carnet de région que j'ai le plaisir de vous présenter cette semaine puisque RCF Maglonéro en assure sa rédaction. Et n'oublions pas également de citer les différentes radios associatives collaboratrices de ce carnet de région pour rester au cœur de l'actualité de la région. Au sommaire, cette semaine, une ZAD pour zone d'aménagement différé qui fait débat et ça ne se passe pas à Notre-Dame-des-Landes, mais bien dans le Gard, précisément à Saint-Hilaire-de-Bradmas. Rémi Goujon de Radio Escapade nous en dira plus. Ensuite, nous parlerons du loup. La présence du loup s'étend sur le territoire lozérien. Et oui, et nous en parlerons et les explications dans ce carnet de région avec Ludovic Terol de 48 FM. Nous poursuivrons ce magazine avec Maud de Bourconnais avec une journée tous unis contre le cancer. Et nous entendrons pour cela Florence Cosson-Gély. Ensuite, un petit peu de poésie dans ce carnet de région, ça ne fera pas de mal avec Adrien Delgrange. Et pour finir, du rire garanti avec le festival Festirire tout au long de ce week-end. Ça se passe à Thézan-les-Béziers. C'est le carnet de région.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Une zone d'aménagement différé a été créée sur la commune de Saint-Hilaire-de-Bretmas sur une zone de plus de 300 hectares. La mairie, puis la communauté d'agglomération du Grand Alès, espèrent bien y ériger un golf ainsi que plusieurs résidences touristiques de luxe. Face à ce projet, l'association Saint-Hilaire Durable s'est formée et organise ce week-end, un peu sur le même principe de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, une manifestation pour réensemencer les terres agricoles concernées par ce projet. La disparition des terres agricoles et l'alimentation en eau sont les deux grands facteurs d'opposition et de l'opposition au projet, comme nous l'explique Béatrice Bernard-Chanon, membre du bureau de l'association et conseillère municipale d'opposition de la commune de Saint-Hilaire-de-Bretmas.
Nous, ce qu'on a souhaité, c'est avoir une communication sur ce dossier, c'est-à-dire les tenants et les aboutissants. C'était très vague, on avait juste quelques infos comme ça, un golf, deux golfs. Le projet urbanistique, on n'en parlait pas. Hein, tout ce qui était les résidences pavillonnaires, personne n'en parlait. Les terres agricoles, personne n'en parlait. C'était très, très, très approximatif. Donc, dans un premier temps, on a voulu avoir des renseignements. Et quand on a appris qu'ils voulaient accaparer des terres agricoles pour un golf, ça nous a quand même choqués. Et après, on a appris de quelle manière ils voulaient arroser le golf. On a cherché à savoir comment ils allaient irriguer. Alors, dans un premier temps, l'agglo nous a répondu qu'ils allaient irriguer avec l'aval de la station d'épuration. Ce qui était vrai, ils voulaient vraiment le faire ainsi. Nous, ça posait question parce qu'on sait qu'en aval, ensuite, donc l'eau, si elle ne retourne pas au gardon, il peut y avoir vraiment des problèmes pour les utilisateurs en aval. Donc, on a cherché à avoir des renseignements auprès du SMAJ et le SMAJ était contre cette opération. Par la suite, on a su, mais alors de manière tout à fait, ça a été hasardeuse, on a su que la préfecture avait émis un avis défavorable sur cette méthode, tout simplement parce qu'ils avaient, les porteurs du projet avaient surestimé le volume de l'étiage du gardon pour pouvoir donc faire une simple déclaration à la préfecture. Donc la préfecture a retoqué le projet, donc ils se sont retrouvés avec une solution à trouver. Donc la solution qui apparemment a reçu l'aval du SMAJ, le SMAJ donc c'est le schéma d'aménagement des gardons, c'est un stockage sur le site d'environ 5 hectares, 107 mètres de profondeur, plus un pompage dans la nappe d'accompagnement du gardon. Donc en période d'hiver, on va alimenter le bassin de stockage pendant donc, cette période des basses eaux, une fois que le bassin est plein, l'été, interdiction de prélèvement, ils n'ont pas tenu compte des évolutions du climat. C'est-à-dire qu'on se base sur la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il y a un étiage qui est constitué de temps, le volume est de temps, mais on ne se projette pas dans l'avenir. Voilà, le problème aussi des terres agricoles, savoir que donc il y a environ 170 hectares de terres agricoles, hein. Voilà, 170 hectares de terres agricoles. On a un exploitant qui a une trentaine d'hectares qu'il vient de convertir en bio. C'est un jeune agriculteur, il veut installer son fils. Donc lui sera exproprié parce qu'ils ne trouveront pas l'équivalent. En fait, parce qu'en ce moment, ils essaient de proposer des échanges. Alors, quand c'est des petites surfaces, on arrive à trouver. Mais là, ce n'est pas possible. Et il y en a quelques-uns comme ça dans ce cas-là. À part quelques friches, mais tout est cultivé.
Des propos recueillis par Rémi Goujon de Radio Escapade. Et sachez qu'une enquête publique a été menée sur la commune. Le préfet devrait rendre ses conclusions dès la fin du mois. Et une pétition a été lancée à ce jour contre ce projet. Elle totalise plus de 26 000 signatures. Et maintenant, dans ce carnet de région, direction la Lozère, où la présence du loup ne se limite pas aux zones du mont Lozère et également aux causses du Méjean. Une vidéo tournée le 6 mai montre un loup dans les pâturages à une centaine de mètres d'habitation sur l'Aubrac. Les explications de Ludovic Terol de 48 FM.
Le loup de retour en Lozère, on en parle depuis un moment déjà, mais le loup présent sur l'Aubrac lozérien, les preuves n'avaient pour l'instant pas été encore apportées. Et c'est ce qu'ont fait la semaine dernière les jeunes agriculteurs de la Lozère. C'est Mathieu Rodier, le secrétaire général des JA 48, qui a aperçu l'animal à une centaine de mètres des habitations, au lieu dit Le Brouillet, sur la commune de Saint-Pierre-de-Nogaret, le lundi 6 mai. Filmé à l'aide de son téléphone portable, la photographie laisse peu de doutes quant à l'animal. Écoutez Mathieu Rodier.
L'animal a traversé une parcelle, pas du tout effrayé, tranquillement. Il nous a laissé le temps de le prendre en photo et une petite vidéo. C'était un terrain découvert, c'est des prés de fauche, donc pas du tout boisé. L'animal, comme je vous dis, n'était pas plus qu'effrayé. Donc ce qu'on constate, c'est que la colonisation du loup est bien là. Elle est très rapide et progresse sur tout le département. Elle ne va pas s'arrêter ailleurs aux frontières lozériennes. Elle avait été vraiment recensée sur le Cosmejan. Aujourd'hui, c'est sur l'Aubrac.
C'est Michael Meyruex, premier vice-président des jeunes agriculteurs de la Lozère, qui est en charge du dossier loup. Éleveur à Saint-Étienne du Val-d'Aunaise, Michael se dit victime d'attaques de loups qui auraient décimé 26 brebis l'an dernier. Attaques définies par la préfecture comme provenant de chiens errants, chiens qui n'ont jamais été retrouvés. Et Michael Meyruex n'en démord pas, il s'agit bien de loups, et n'étant pas reconnus comme des attaques de cet animal, ce sont 12 000 euros perdus par l'exploitant agricole. Michael Meyruex.
En 2011, 37 brebis mortes ou disparues, ou euthanasiées parce qu'elles ne pouvaient pas les soigner. Et l'année dernière, 26, et les constats ont toujours donné la même chose, que c'était du chien. Alors qu'il y a eu des tests ADN qui ont été faits sur le secteur et qui prouvaient bien que le loup était là, et de toute façon, les gardes du parc ne nous l'ont pas caché. Le loup était là dans le secteur, ils le savaient pertinemment. Là, maintenant, le souci qu'on a, c'est que les chiens, on ne les a jamais retrouvés, on n'a jamais rien vu. Toujours des attaques de nuit, toujours très discrets. Les gardes du parc passaient régulièrement en plus de notre surveillance personnelle sur le troupeau. Tous les chiens étaient ramassés dans tous les villages à 15 km aux alentours. Donc le chien, on n'y croit plus, on n'y croit pas du tout. Ça nous a coûté, ça frôle les 12 000 euros pour l'année dernière. Donc effectivement, c'est tout le revenu d'une année qui s'en va. Donc nous, aujourd'hui, cette exploitation, elle est mise en péril.
Alors le plan loup adopté prévoit 5 mesures pour aider les exploitants se situant dans les zones d'attaque hors parc national, le périmètre en Lozère se situant aux alentours du Cosmejan. Pour les zones 2 se situant hors de cette zone 1, ce ne sont que 2 mesures, des clôtures électrifiées et des chiens qui peuvent être subventionnés aux exploitants. Et avec cette vidéo montrant le loup sur l'Aubrac, les jeunes agriculteurs sont inquiets pour l'ensemble des exploitants lozériens hors du Cosmejan et du Mont Lozère. Julien Tufféry, le président des JA, demande l'extension de la zone 1 à l'ensemble de la Lozère.
Donc nous, on peut dire aujourd'hui que le loup est présent sur toute la Lozère et on veut que les agriculteurs aient les mêmes moyens de défense n'importe où ils se trouvent en Lozère. On demande plus de transparence des services de l'État. Toutes les analyses, tous les résultats d'analyse faits l'année dernière, les prélèvements, on ne connaît pas tous les résultats. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir que tous les agriculteurs lozériens aient en temps réel la progression du loup, la progression de ses attaques, les résultats d'analyse pour qu'ils puissent anticiper chez eux, sur leur troupeau, et trouver des solutions au cas par cas.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Tous unis contre le cancer. Vendredi dernier, à Montpellier, se tenait Recherche Montpellier Cancer avec tous les acteurs de la recherche en cancérologie qui étaient présents, cliniciens, biologistes, mais également chercheurs. C'était aussi la première journée en tant que CIRIC, le site de recherche intégré sur le cancer, un label obtenu en juillet 2012 qui permet à la recherche montpelliéraine de se structurer, notamment en 4 programmes dans les sciences humaines et sociales. Florence Cossongeli, elle est professeure professeure de psychologie à l'université Paul Valéry. C'est elle qui coordonne ce programme. Elle nous explique ses principaux enjeux au micro de Maud de Borquenay pour RCF Maglanero.
On va prendre en compte à la fois la dimension physique, mais comment la maladie peut impacter la personne d'un point de vue psychologique, donc comment elle va réagir, et aussi d'un point de vue social, c'est-à-dire comment cette maladie peut impacter ses relations avec les autres et va aussi impacter sa famille. Donc il y a une prise en compte au niveau des patients atteints de cancer, de leur famille, mais il y a aussi une prise en compte des personnes qui n'ont pas encore de cancer. Et donc, on va essayer de prendre en compte les comportements sains, c'est-à-dire donc les comportements qui seraient plutôt vis-à-vis d'une non-apparition ou d'une apparition plutôt retardée de la maladie. Ça peut être des enfants, des adolescents, des jeunes, sur des comportements clairement identifiés comme étant à risque de développer un cancer, comme le tabac, comme l'alcool. Ça peut être aussi sur le soleil. Donc, un des objectifs du programme 4, c'est d'essayer de modifier ces comportements. Puisqu'en fait, ça ne suffit pas d'informer les gens sur ces comportements à risque. Il faut en fait faire véritablement des actions de prévention. Et donc, l'objectif de ces programmes, c'est essayer de proposer des actions de prévention qui soient les plus efficaces possibles.
Et donc, concrètement, les sciences humaines et sociales peuvent aider à la lutte contre le cancer plus largement ?
Concrètement, oui, elles peuvent aider en amont. C'est ce qu'on va appeler la prévention primaire, puisque c'est avant que les personnes aient un cancer. Donc elles peuvent aider d'une part à, donc comme je le disais, essayer d'adopter des comportements sains, mais aussi de participer à des programmes de dépistage, donc avec une information sur ces programmes de dépistage. Et ensuite, elle peut aider dans la lutte contre le cancer, c'est-à-dire une fois que les personnes sont atteintes de la maladie, pour essayer de mieux vivre cette maladie.
Cette implication des sciences humaines et sociales dans la recherche en cancérologie, c'est une nouveauté ?
Alors, c'est une nouveauté ? Non, pas vraiment. En fait, ça existe depuis 20-30 ans, ce qui n'est pour la recherche n'est pas si ancien que ça. Avec, donc, si vous voulez, des prises en compte dans le sens où les patients sont aussi demandeurs de cette prise en charge et de cette prise en compte des facteurs psychologiques. Mais maintenant, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'état psychologique des patients peut bien entendu influencer leur qualité de vie, et cette qualité de vie peut influencer la réponse au traitement, mais peut aussi influencer l'évolution de la maladie.
C'était Florence Cossongeli, coordinatrice scientifique du programme Sciences humaines et sociales dans le cadre du CIRIC de Montpellier, site de recherche intégrée sur le cancer qui regroupe les trois acteurs montpelliérains de la recherche en cancérologie, à savoir le CHRU, l'ICM, le CNRS et également d'autres structures. Nous poursuivons ce carnet de région avec de la poésie maintenant, poésie sans frontières pourrait-on même dire, puisque le festival Voix vive de la Méditerranée en Méditerranée, basé dans l'Hérault à 7, s'est exporté le week-end dernier à El Jadida au Maroc. Adrien Delgrange, notre voyageur reporter, était sur place de Radio Pays d'Hérault.
La ville d'El Jadida, située à une centaine de kilomètres au sud de Casablanca face à l'océan, est jumelée depuis 20 ans avec la ville de Sète dans l'Hérault. Et c'est afin de faire vivre, voire revivre ce jumelage que le festival de poésie Voix vive de Méditerranée en Méditerranée, dirigé par Maïté Vallès-Bled, s'est exporté de l'autre côté du détroit de Gibraltar, c'était le week-end dernier. Pendant 3 jours, une cinquantaine de poètes ont déclamé leurs textes dans les rues, les jardins, ou les hôtels, et le concept reste le même qu'en France. Maïté Vallès-Bled.
Le concept reste le même puisqu'il s'agit de réunir simultanément dans un même lieu des poètes venant de tous les pays de la Méditerranée qui vont faire entendre leur poésie dans leur langue, entourés de musiciens, de conteurs, de chanteurs, selon une musique des cultures qui permet à la fois une découverte, bien évidemment, de cette poésie méditerranéenne contemporaine, mais aussi qui constitue une plateforme d'échange, de rencontres, de partage, d'amitié. Enfin bon, ce sont pas des mots, ça, ce sont des choses profondément liées à l'humain et dont la poésie permet d'ouvrir les portes.
Un festival de poésie d'une telle ampleur accueilli au Maroc, c'est une première. Driss El Mourabi, de l'Association provinciale des affaires culturelles d'El Jadida.
Les Marocains ont besoin d'un tel festival comme le festival de la poésie internationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes cultures qui se rencontrent à ce niveau, c'est une vraie joie concernant tous les Marocains. Et tous les Marocains s'applaudissent. Et vous voyez le monde qui assiste et qui entend le poète qui lire leur poésie.
Quand la parole préméditée perpétue le chant des cascades jusque dans cette eau de vaisselle à la bouche des égouts, à quelle porte frapper pour en avertir les naïades? Dans quel champ brûler à l'avance, mes mots iront tomber en convulsion sans que rien ne frémisse dans celui qui écoute, sans que rien ne s'arrête dans moi qui parle, qui marche et m'agrandit d'un désert de plus.
C'était un poème de Rachida Madani, poète marocaine qui vit à Tanger. Sachez qu'après El Jadida, le festival Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée fera escale en Italie, à Gênes au mois de juin, à Sète au mois de juillet et en Espagne, à Tolède, en septembre.
C'était un sujet de Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.